Radio Méridien Zéro. Dans le Figaro du 9 novembre 2016, Étienne de Montetti rappelait à propos de l'élection surprise à la Maison-Blanche de Donald Trump que son patronyme vint d'un substantif signifiant en anglais « atout ». Il ajoutait aussitôt que le verbe « to Trump » se traduit par « éclipser, ridiculiser, battre, voire l'emporter sur ». Force est de constater que l'étymologie du nom de famille du 45e président des États-Unis correspond parfaitement à la situation actuelle. En campagne pour des élections primaires qu'il survole largement, ayant déjà remporté les scrutins et caucus de l'Iowa, du New Hampshire, du Nevada, des îles Vierges américaines, de la Caroline du Sud et du Michigan, Donald Trump rêve de battre, à la régulière, en novembre prochain, un Joe Biden très mal en point. Il a cependant tétanisé les chancelleries occidentales par une sortie dont il est coutumier. En réunion électorale en Caroline du Sud, le 10 février dernier, l'homme aux 119 chefs d'accusation a menacé les États européens membres de l'OTAN. Si ces derniers ne réalisent pas un effort réel dans leur défense nationale en augmentant de manière conséquente leur budget militaire, plus de 2% du PIB, il pourrait, en tant que futur chef de l'État, ne pas appliquer l'article 5 du traité de 1949 et ne pas secourir des États peut-être agressés par leurs voisins russes. Plusieurs collaborateurs conservateurs classiques de Trump, entre 2017 et 2021, ont signalé qu'il avait eu l'intention de faire sortir les États-Unis de l'OTAN en 2019. Les agents républicains de l'État profond l'ont dissuadé. De retour en 2025 dans le bureau ovale, Donald Trump compterait cette fois-ci sur des administrateurs en plein accord avec sa politique. Conscient de cette menace, les démocrates ont adopté une loi qui contraint tout président désireux de quitter l'OTAN à demander l'accord préalable du Congrès. Maintes commentateurs s'offusquent du dessin isolationniste du très probable candidat à la présidentielle de novembre 2024. Ces grincheux oublient volontiers que Donald Trump s'inscrit dans la continuité diplomatique états-unienne, en particulier dans celle de la Farewell Address. Le 19 septembre 1796, le grand journal de l'époque, American Daily Advertiser, publie un texte du président George Washington. Il y annonce qu'il ne briguera pas un troisième mandat et fait de cette déclaration imprimée son testament politique. Conscient de la faiblesse d'une armée balbutiante et des fragilités d'un ensemble fédéral récent, le premier président américain invite la jeune République au détachement diplomatique envers les événements révolutionnaires survenus en Europe. « La grande règle de notre conduite, écrit-il, pour ce qui touche à nos rapports avec les puissances étrangères, doit être de développer nos échanges commerciaux, mais d'entretenir avec elles le moins de relations politiques possibles. » En 1789, le Congrès a changé le ministère des Affaires étrangères, créé en 1781, en secrétariat d'État pourvu de nouvelles attributions intérieures, plus tard réparties à d'autres membres du cabinet exécutif. George Washington insiste par conséquent sur une diplomatie qui rejette les alliances permanentes et qui permet au contraire une neutralité active capable de s'adapter à toutes les circonstances internationales possibles. Donald Trump montre sa fidélité à l'enseignement de son très lointain prédécesseur, même si les États-Unis d'Amérique sont entre-temps devenus la première puissance globale de la planète. Fondée sur le rejet de l'immigration, la condamnation des traités de libre-échange et un isolationnisme certain, le nouveau conservatisme trumpien, à distinguer du néoconservatisme belliciste et hégémoniste du clan Bush, s'écarte résolument du conservatisme classique qui préconise la hausse constante du budget du Pentagone afin de financer toutes les interventions extérieures, la dérégulation économique intérieure qui profite aux nouvelles industries numériques et du divertissement wokiste, et la baisse massive des impôts. Seule la défense des valeurs morales traditionnelles et la lutte contre l'avortement peuvent en théorie rassembler ces deux courants antagonistes du conservatisme outre-Atlantique. Les propos polémiques de Donald Trump en Caroline du Sud ont le grand mérite de réveiller des gouvernements européens poussifs qui pensent écarter toute menace parce qu'ils bénéficient du parapluie états-unien. Certains États ont néanmoins commencé à se réarmer, que ce soit sous les nationaux conservateurs du PiS ou sous le régime d'extrême-centre proto-autoritaire de Donald Tusk, la Pologne poursuit sa montée en puissance et entend devenir la première force militaire de l'Union dite européenne. La Hongrie de Viktor Orban ne cesse de réclamer depuis des années une coordination intégrée des armées du continent. À partir du second septennat de François Mitterrand, la France soutient une défense européenne. Avec le Brexit, elle reste la seule détentrice de l'arme atomique au sein de la pseudo-Union. Favorable à une vague souveraineté européenne, Emmanuel Macron souhaiterait étendre le principe de la dissuasion nucléaire à l'ensemble des États membres de l'Union dite européenne qui appartiennent aussi à l'OTAN, ce qui exclurait l'Irlande, l'Autriche, Malte et Chypre. Mais la Norvège, l'Islande, l'Albanie, le Monténégro et la Macédoine du Nord recevraient-ils eux aussi cette protection ? Quant à la Turquie, elle tâcherait au plus vite d'acquérir le rang de puissance nucléaire. Par ailleurs, si se concrétise cette couverture nucléaire française en Europe, qui aurait la prérogative d'appuyer sur le bouton fatal ? Serait-ce le président de la République française, qui deviendrait de facto le principal stratège de la cité pan-européenne, ou bien un aréopage de chef d'État et de gouvernement qui déciderait après les inévitables palabres ? Dans l'urgence du moment, même en visioconférence, on se doute bien qu'une telle réunion serait impossible à organiser. Confier la force de dissuasion nucléaire à l'échelle européenne pose donc l'inévitable question de la souveraineté. Celle-ci ne se partage pas. Par le principe de subsidiarité, elle se décline seulement auprès d'autorités compétentes. Dans le cadre de la riposte immédiate, ce qui suppose une très grande réactivité, la caste jacassante ne peut pas décider sans omettre que la qualité intellectuelle du personnel dirigeant actuel confine à la nullité totale. Les Européens n'en sont qu'au début d'un saut historique vers un inconnu peut-être prometteur, surtout si Donald Trump revient au pouvoir à la fin du mois de janvier 2025. N'a-t-on pas dit au début de cette chronique que Trump voulait dire « atout » ? Sa seconde élection pourrait devenir un formidable atout pour l'émancipation militaire, bien malgré elle, d'une Europe nantie et somnolente. Salutations flibustières !